RCF.
Amis auditeurs, auditrices du Berry se raconte, avec Agora Défense et la vie militaire dans le Cher et l'Indre, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Montalbot, chef d'entreprise, mais aussi officier de réserve. Bonjour mon colonel.
Bonjour Berlin.
La réserve. Ce mot a plusieurs définitions dans le dictionnaire. J'en cite deux, qui font référence à la question militaire, qui sera le thème de notre émission de ce jour. La première définition, ensemble des citoyens soumis aux obligations militaires et qui ne sont pas en service actif. La seconde, troupes de renfort prêtes à se porter aux endroits où leur présence est nécessaire. Bon, mon colonel, je pense que la première définition ne nous concerne plus pour le moment, dans la mesure où le service national ou service militaire a été suspendu. Alors justement, mon colonel, qu'est-ce que la réserve ? Plus précisément, est-il possible de dresser un bref historique de cette notion de réserve employée dans l'armée ?
La réserve, c'est un vaste sujet qui est pleinement dans l'actualité et qui remonte effectivement les premières notions de réserve. Bon, il faut remonter à la Révolution où on a créé, c'est Lafayette qui en 1791 avait créé la première garde nationale. C'était une institution à statut civil. C'est en 90-91. La première mission de cette garde nationale et de ces régiments territoriaux, par la suite, était de, premièrement, garder les frontières, parce qu'il fallait se protéger de l'envahisseur prussien, en l'occurrence.
Oui.
Voilà. Et ça a continué dans toute notre histoire, bon, avec des évolutions. Mais depuis la Troisième République, on ne peut pas dire que, jusqu'à 1999, on ne peut pas dire que la réserve ait beaucoup changé. C'était une réserve de masse. N'oublions pas, en 1914, on appelait ça la réserve. C'est des gens qui étaient mobilisables après leur service militaire, au cas où. Et il y eut plus de 8 400 000 hommes qui ont été mobilisés en 14. En 40, c'était quelque 4 900 000. N'oublions pas qu'il y avait des réservistes, 10 000 officiers, par exemple, ont été faits prisonniers en 40.
C'est énorme.
Pendant la débâcle. C'est énorme.
Ouais.
Ils étaient réservistes. C'était des suppléments. On appelait ça des supplétifs ou des complémentaires à l'armée d'active.
Tout
alors, ça a évolué sous différentes formes parce que après la Révolution, on avait donc l'armée d'active et l'armée territoriale.
Oui.
L'armée territoriale avait pour vocation de défendre le territoire, bien sûr, et de garder les frontières. Mais n'oublions pas que Napoléon l'a utilisé quand même dans ses campagnes, intra-frontières.
Tout à fait.
Et puis, il y avait une réserve de l'armée d'active et une réserve de l'armée territoriale. C'était gigantesque. La population française était la plus importante à l'époque de l'Europe. Et donc, on jouait sur la démographie, évidemment. L'empereur avait fait sa petite analyse et pouvait se permettre ses campagnes puisque la loi du nombre faisait que sur un champ de bataille. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Depuis 1999, on a eu une évolution assez significative.
Ah justement, ma seconde question rentre dans l'actualité. Nous sommes bombardés, si je puis me permettre, dans les médias par la déclaration de nos dirigeants sur l'utilisation des réservistes dans la police, la gendarmerie, l'armée. On nous parle de réserve citoyenne. Pouvez-vous nous éclairer sur cet ensemble qui, pour moi, est très confus et surtout pour le commun des mortels ? Alors, il est évident que les attentats ont accéléré ce phénomène. Parlez-moi de la réserve en 2016.
C'est vaste et en même temps, c'est relativement simple. Il faut scinder nos forces armées. Nous avons l'armée d'active.
Oui.
Et depuis 1999, et le projet Armée 2000, et maintenant le plan réserve prévu pour le statut que l'on doit atteindre pour le 1er janvier 2019, c'est une armée complément. Enfin, ce sont des hommes et des femmes en complément de l'armée d'active, à titre individuel ou en unité constituée. Très schématiquement, la réserve militaire se scinde entre une réserve opérationnelle qui se scinde d'elle-même en deux réserves, celle de niveau 1 et celle de niveau 2, qui sont les anciens militaires d'active qui sont soumis.
Alors, qu'est-ce que la réserve niveau 1 ?
ben ce sont tous les réservistes que nous connaissons qui servent sous contrat, qu'on appelle un ESR, engagement spécial dans la réserve. Et ce contrat, c'est une, comme tout contrat dans le civil, c'est une volonté du commandement de vous attribuer une durée d'emploi et vous, vous y souscrivez, vous la diminuez ou vous cherchez à l'augmenter, enfin, suivant la position dans laquelle vous êtes, tout simplement.
D'accord.
Et il vous est, par contrat, vous avez un nombre de jours, vous pouvez souscrire, bon, la moyenne, c'est entre 25 et 30 jours, ça, c'est le besoin affirmé, il augmente plutôt vers 30 jours actuellement, c'est le besoin de nos armées. Ces contrats, cette réserve n'existe qu'en fonction d'un besoin et non plus une réserve de masse. C'est ça l'évolution essentielle depuis 1999, c'est que ce sont des gens sélectionnés pour un besoin, des spécialistes, etc. Voilà. Alors donc, pour continuer le schéma de notre réserve opérationnelle, la réserve de niveau 2, donc je disais les anciens militaires qui sont pendant 5 ans à disposition au cas où, et il y a des exercices qui sont faits pour ça, et ça marche très bien. Vous avez à côté de cela, toujours dans la réserve militaire, la réserve citoyenne.
Alors on entend beaucoup parler de réserve citoyenne.
Alors c'est pas la masse, c'est pas la masse. Alors, la réserve opérationnelle, l'objectif 31 décembre 2018, c'est 40 000 hommes pour nos armées.
Oui.
Et à côté de cela, vous avez la réserve de la gendarmerie, à ne pas négliger. C'est 40 000 hommes aussi, comme objectif.
C'est important, dit. C'est
très important. Alors que la réserve citoyenne, c'est pour l'instant un effectif tout compris. Bon, pour l'armée de terre, c'est 1500 personnes. Au tout global, on va avoisiner à peu près actuellement les 4000 personnes.
Alors qu'est-ce qu'on met dans ce terme de
réserve citoyenne ?
Réserve citoyenne. Est-ce que c'est un vocabulaire politique ? On s'inspire de quoi un peu ?
Non. Il y a une véritable mission, à condition qu'elle soit définie, parce que ça, c'est du gré à gré vis-à-vis de l'autorité d'emploi. Ça peut être très vaste.
Soyez plus précis, mon colonel. Parce que...
Bon, alors on va être plus précis. Si... Tout citoyen qui veut servir dans la réserve, et c'est d'actualité. Aujourd'hui, nos associations, les centres d'information et de recrutement sont constamment appelés. Faut pas croire, il y a un véritable engouement malgré tout. La population a bien conscience qu'il y a besoin de faire quelque chose. Les gens qui sont hors des clous, pour prendre une expression facile, pour servir... soit parce qu'ils sont hors des limites d'âge, soit parce qu'ils n'ont pas les aptitudes physiques, parce que c'est quand même, on ne rentre pas dans la réserve comme cela, en opérationnel malgré tout, quelques critères qu'ils soient, ils peuvent servir dans la réserve citoyenne. Et ce n'est pas un pis-aller ou un service au rabais.
Quelle va être la mission du réserviste citoyen ?
Bon, alors, on met ça dans un grand globe. Ça peut être des missions très plus expérimentées, disons, dans ce sens. Ça peut être de la communication.
Voilà.
Ça peut être pour le rayonnement, la participation au nom d'eux ou en représentation du grand chef pour des grandes cérémonies ou la préparation d'eux. Enfin, il y a une expertise tout de même derrière. Et c'est beaucoup plus vaste que cela.
Donc, si je comprends bien, la réserve militaire... Ça correspond à combien d'hommes entre la réserve 1 et 2 ? 80 000 hommes.
Ah ben, si on comprend les gendarmes.
Les gendarmes, oui.
Oui, c'est 80 000 hommes. Si vous rajoutez la réserve de la police nationale, on arrive à 84, quoi, grosso modo.
D'accord. Et la réserve citoyenne, c'est environ 1500 à 2000 hommes, 2000 personnes.
Si on comprend les réserves citoyennes de toutes les armées et services, on est plutôt proche de 4000.
Alors, justement... La réserve, telle que vous nous l'avez définie, peut-elle apporter un soutien efficace et pragmatique aux problèmes de sécurité que traverse actuellement notre pays ?
Alors, on pourrait dire oui, on pourrait dire non. Ça dépend sous quel angle. Alors, en fait, je ne dis pas il faut dire oui pour il faut dire oui. C'est inévitablement oui.
Très bien.
Oui. Pourquoi ? Parce que nos armées, le chef d'état-major, le patron de nos armées, l'armée de terre en particulier, lors de son audition, a bien dit que nous étions au taquet. les missions Sentinelle et Vigipirate sont très gourmands de personnel. La gendarmerie est au taquet, l'armée de terre est au taquet, parce que c'est les plus nombreux. Mais n'oublions pas l'armée de l'air, les services, les essences, etc.
La marine.
La marine, les différentes composantes de nos armées, le commissariat, parce qu'il faut bien gérer. Tout le monde est mobilisé et a besoin de compléments et de renforts. Il est évident qu'avec les missions que la France a vers l'extérieur, à l'intérieur, ça finit par poser problème. Donc toutes les unités de réserve aujourd'hui sont mobilisées pour remplir ces missions.
Pensez-vous que la fin du service national a fait reculer la notion de défense aux jeunes Français et Françaises, et aussi la fin d'une réserve mobile? Est-ce que c'est aussi la fin d'une réserve mobilisable et opérationnelle telle qu'on pouvait la connaître à une époque? Est-ce que vous pensez que service national, il a fait reculer la notion de défense? Ou est-ce que vous pensez que les Français et les Françaises sont toujours, ont conscience de la notion de défense? Très rapidement.
On pourrait dire qu'on a perdu un peu en ligne, parce qu'effectivement, chaque Français était soumis au service national,
oui.
Chaque homme, voire chaque femme. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est complètement différent. Sachez que par la loi, depuis 1997, chaque Français, chaque Française et Français est soumis normalement à un parcours qu'on appelle le parcours citoyen, qui débute avec l'enseignement de la défense, se poursuit par la participation au recensement, à la journée défense citoyenneté, la fameuse JDC. Et puis ce parcours, une fois exécuté, une fois majeur, il permet à tout petit Français, toute petite Française, d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
Très bien. Mon colonel, une ultime question. Comment peut-on devenir réserviste?
Bonne question, et ça c'est essentiel.
Voilà.
Bon, alors pour devenir réserviste en France, il faut être bien sûr de nationalité française.
Oui.
Être âgé de 17 ans au moins. Et avoir satisfait aux obligations que je viens de citer tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont nés après le 31 décembre 1978, avoir participé aux journées d'appel à la préparation de la défense ou à la journée de défense citoyenneté. Posséder évidemment, et ça ce sera fait par test, les aptitudes physiques qui sont requises pour l'emploi qui est recherché ou qui vous sera proposé. Et puis évidemment, il ne faut pas avoir été condamné à la perte de droits civiques, etc. quoi, hein, ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, hein, ou à une peine criminelle, etc. ou perte de grade pour les anciens militaires actifs. Voilà. Ça, c'est ce que doit faire tout citoyen. Alors, comment ? Eh bien, il va au contact des centres d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA, qui sont dans chaque préfecture à Bourges, c'est avenue du 95e de ligne. C'est très simple, cette démarche, et là, vous serez accueilli et vous serez éventuellement orienté en fonction de vos aspirations.
Merci, mon colonel, pour ces explications détaillées, précises. On perçoit dans vos propos la passion et la haute idée de votre mission de réserviste au service de notre pays. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, auditrices du Berry se raconte, avec Agora Défense et l'histoire militaire du Cher et du Berry. Et bonne journée à l'écoute de RCF.